Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur sur le livre d'Ecclésiaste. Nous en sommes au chapitre 4. Et chaque chapitre de ce livre nous impose de rappeler le thème principal de ce livre qui est vanité des vanités, tout est vanité. Donc ce livre nous montre la vanité des choses terrestres pour nous pousser à nous accrocher à l'invisible, à Dieu lui-même. Et nous allons le rappeler encore tout le long de ce chapitre. Donc nous commençons le chapitre.
Ecclésiaste chapitre 4. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console.
Voilà, et personne ne les console.
Salomon parle.
Voilà, Salomon parle de l'oppression, de la souffrance des humains de la part des autres humains ou du fait des situations terrestres. Il dit ça dégoûte. Voilà. Quand nous voyons la souffrance des humains sur terre, ça fait très mal. Nous rappelons le thème de ce livre, c'est que tout est vanité. Donc même quand tu es millionnaire, mais que tu regardes un documentaire sur des enfants qui vont manger dans les poubelles dans certains pays, des gens qui subissent les inondations, des gens qui sont enlevés, torturés, ça fait mal, ça enlève le goût de tous ces millions. C'est une réalité que nous voyons sur terre. Et pire encore, qu'est-ce qui lui fait mal? C'est que les gens ne les aident pas. Ils ne sont pas aidés, ceux qui souffrent, à cause, bien sûr, de l'égoïsme humain. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Personne ne les console. Ça nous fait comprendre d'autant mieux la phrase de Jésus, « Je vous enverrai un autre consolateur. » Dieu est conscient que la terre est remplie de souffrances. Il le sait très bien. C'est pourquoi Jésus dit, « Je vous enverrai un autre consolateur. » Déjà, lui-même, il était le consolateur des opprimés. Vous vous souvenez, quand Jésus physiquement était sur terre, il guérissait les malades. Et des gens qui avaient des maladies incurables, qui mendiaient, il les guérissait. Il venait en aide aux faibles, à ceux qu'on voulait lapider. Il venait en aide au monsieur qui était possédé, qui dormait dans les cimetières. Il est venu en aide, il l'a libéré. Il était un consolateur pour les gens de son époque. Nous nous souvenons de l'épisode de la femme qui souffrait de perte de sang. Cela faisait 12 ans qu'elle en souffrait. 12 ans, il est écrit qu'elle avait dépensé tous ses biens pour payer les médecins, payer les charlatans, et elle avait tout dépensé. Et ce jour-là, Jésus-Christ passait par là. Il a été un grand consolateur pour cette femme, une grande consolation pour cette femme qui a été guérie par lui. Nous voyons Zachée rempli de questionnement, rempli d'amertume, malgré ses richesses dues à de l'argent en partie volé. Il n'était pas bien. Il cherchait la paix de l'âme, la paix du cœur. Mais qui pouvait s'intéresser à un homme considéré autant mauvais? Personne, sauf Jésus. Ce jour-là, Zachée, dans le trouble de son âme, est monté sur l'arbre, regardant Jésus avec envie. Et Jésus a senti cela. Il a dit, Zachée, aujourd'hui je serai chez toi. Voilà ce que Jésus a été. Un consolateur, Zachée, ce jour-là, a reçu le salut. Les gens ont critiqué Jésus pour dire, mais qu'est-ce qu'il va faire chez un homme pécheur? Mais lui, il a dit, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est un consolateur. Il peut l'être encore pour nous aujourd'hui. Et il nous a promis ceci, il a dit, je m'en vais, mais il viendra un autre consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il sera en vous et au milieu de vous. Donc, deux fois, autour de nous et en nous, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur, qui répond à nos questions, qui nous guide, qui nous fortifie. Dans les moments où nous semblons seuls ou abandonnés, lui nous fortifie. C'est ça le travail de Dieu pour l'humanité. Un autre consolateur. Donc, il est conscient que nous souffrons. J'aime beaucoup ce verset d'Apocalypse 21:4 qui dit que au dernier jour, lorsque nous irons au ciel, il essuiera toutes nos larmes. Il n'y aura plus ni cri ni deuil. Pourquoi essuyer nos larmes alors que nous entrons au ciel? Parce que nous aurons ce jour-là les larmes des souffrances de la terre, une fois pour toutes, qui vont couler. Le souvenir de la terre nous fera pleurer. Parfois nous souffrons même sans nous en rendre compte parce que nous nous sommes habitués à certaines souffrances. Mais le jour où on nous enlèvera le poids de la terre, nous nous sentirons tellement bien que nous en pleurerons. Nous réaliserons dans quelle souffrance nous étions. Nous réaliserons ça. Le consolateur. Parce que nous souffrons sur terre, ce qui est grave, c'est que c'est l'indifférence des humains. Des humains qui voient les autres souffrir et qui ne font rien. Et Salomon dit, ça fait mal. J'ai considéré ensuite les oppressions qui se commettent sous le soleil, ça fait mal. Les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Bien-aimés, même si nous ne pouvons pas apporter la solution à tout le monde, faisons montre de consolation quand même. Compatissons avec le malheur d'autrui, même si nous ne pouvons pas tout résoudre. Voilà, que Dieu nous entraîne, nous aide dans cela. Nous continuons.
Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions.
Voilà encore un élément de réflexion existentialiste, c'est-à-dire sur l'existence. Qui ne s'est jamais posé ces questions-là que nous sommes en train de lire là? Qui n'a jamais fait cette réflexion-là où l'on se dit, mais finalement, ceux qui meurent en ont fini avec les souffrances terrestres. Finalement, ils sont tranquilles. Tous nous avons fait cette réflexion. Et malheureusement, ça a été utilisé par des philosophes existentialistes pour pousser les gens au suicide, au néant, ce que les gens se disent, mais finalement, vous savez, puisque dans le cœur de l'homme, il y a la quête de perfection, de l'amour parfait, il y a cette soif-là, et la soif d'une certaine justice parfaite, d'un monde parfait, bref. Et beaucoup sont déçus par notre monde, comme Salomon l'est là, déçu par notre monde, à tel point que certains se disent, mais finalement, les morts sont mieux que les vivants. Et ça a poussé certaines personnes au suicide, en se disant, en mourant, j'en finis avec ces souffrances terrestres. Et d'autres de dire, mais finalement, ceux qui ne sont même pas encore nés, ils sont bien. Ou ceux qui ne naîtront jamais, ils sont bien. Parce qu'ils ne verront pas toutes ces souffrances que nous vivons sur terre. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Non. Le bien-aimé est en train d'exposer les réflexions que nous pouvons nous faire par rapport à l'existence humaine coupée de Dieu. Effectivement, l'existence humaine coupée de Dieu, elle est déprimante. Elle est triste. C'est ce qu'il est en train de décrire. Il dit, mais si nous regardons qu'à l'homme, finalement, qu'est-ce qu'il gagne ici sur terre? Une terre remplie des infos négatives, remplie d'injustices, de souffrances. Il a parlé des souffrances des opprimés. Chaque jour à la télé, nous entendons parler de souffrances. Nous en entendons parler dans nos familles. Nous vivons pas, sur le chemin, nous rencontrons parfois des handicapés. Rien que rencontrer un aveugle, ça fait mal. Ça pique le cœur de se dire que cette personne ne voit pas le soleil. Donc si nous coupons l'existence humaine de sa source, et c'est vrai, nous arriverions à cette conclusion-là, effectivement, que la mort est préférable, puisqu'au moins on ne voit plus grand-chose, c'est fini. Mais est-ce que nous devons prendre cette conclusion? Non. Parce que nous savons que la mort n'arrête pas les choses. Les choses continuent après la mort. La vie continue après la mort. La dernière fois, nous avions parlé de l'instinct de survie. L'instinct de survie est la preuve que dans l'être humain, il y a la sensation d'éternité. Il sent en lui qu'il n'est pas appelé à mourir. C'est pourquoi il refuse la mort. Pourquoi finalement, malgré tout ce que nous décrivons là, les suicides ne sont pas en si grand nombre que cela. Et ils sont encore en plus faible pourcentage dans les pays où il y a le plus de souffrance. Donc dans les pays où il y a le plus de souffrance, les suicides sont moindres. Comment expliquer ça? C'est que dans l'être humain, il y a la conscience d'éternité. Il y a la conscience du refus, il y a de la mort. Il y a ça, il y a cette puissance qui te fait comprendre que la mort, c'est pas ça qu'il faut. C'est l'éternité. Et les hommes s'accrochent à la vie malgré les souffrances. Mais ces réflexions-là sont demeurent. Mais nous devons nous dire qu'en réalité, tout ce que nous lisons là est lié à l'homme coupé de sa source. Coupé de Dieu, effectivement, nous sommes dans la vanité. Oui, question?
Question Internet. Quelle notion du salut et de la vie éternelle Salomon pouvait-il avoir au vu de ce qu'il écrit au verset 2 et 3? Il insiste beaucoup sur la vanité des choses terrestres, sans pour autant faire clairement référence à la vie éternelle auprès de Dieu.
Nous l'avions dit pendant les séances précédentes, la conclusion... Il nous ramène à Dieu. Les jeunes qui sont en terminale ou en première, bon, ils font des dissertations. Ils développent. Il est en train de montrer d'abord ce que la vie sur terre pour nous dire, ben, vous voyez tout ça, finalement, coupé de Dieu, voilà ce qu'est notre héritage. Souffrance, dépression. Contradiction, nous avons intitulé même l'enseignement d'aujourd'hui « Malheur et contradiction dans la terre ». Donc il y a les malheurs et les contradictions. C'est rempli de contradictions. Voilà. Et de malheurs, c'est pour nous dire ben, il faut chercher autre chose. Prendre la vie en elle-même, la vie de l'homme en elle-même, c'est vanité. Il faut chercher autre chose. Cette autre chose, c'est quoi? C'est se raccorder à Dieu. C'est ça qui donnera un vrai sens, un vrai goût à la vie. C'est revenir à Dieu. C'est ça qui te permettra de vivre. Ce que Dieu appelle la vie, c'est quoi? C'est être collé, branché à lui. C'est ça que Dieu appelle la vie. Que nous respirions, pour Dieu, c'est pas la vie, c'est de la respiration. La vraie vie, c'est être branché à Dieu, avoir un sens, être libéré des fardeaux. C'est ça la vraie vie. Mais Salomon est en train de nous montrer ce qu'est la vie sans Dieu. Il dit, ben voilà, c'est que l'existence humaine, toutes ces contradictions-là, c'est pas agréable. Tous ces malheurs-là, c'est pas agréable. Mais est-ce que nous devions nous suicider? Non, puisque la vie, pour autant, ne s'arrête pas à l'existence physique. Elle continue. Ce n'est pas un appel au suicide. C'est un appel à revenir à Dieu que nous découvrions clairement dans Ecclésias 12, au dernier chapitre. Il le dira clairement, le reste n'est que poursuite du vent. La vraie réalité, c'est venir à Dieu, c'est craindre Dieu. C'est ça qui compte, se brancher à Dieu. Le reste, il est en train de nous montrer que c'est vanité et poursuite du vent. Et les conclusions de tout ces conclusions-là, il n'est pas le seul à les avoir. Je vous ai dit que même les philosophes ont les mêmes conclusions. Sauf que eux, ils n'ont pas de solution. Mais là, nous tous, nous arrivons aux mêmes conclusions. Moi, je suis d'accord avec la personne qui a parlé. C'est déprimant quand on lit ce qu'on lit. Mais c'est réel. C'est déprimant, mais c'est réel. Finalement, quand on voit tous les malheurs des humains, ça donne même pas envie de manger. Voilà. C'est déprimant. Mais quand nous nous souvenons qu'il y a un créateur, lui connaît le secret de la création. Il sait ce qu'il veut avec nous. Nous préférons revenir à lui. Parce que nous savons consciemment aussi que notre mort ne va rien résoudre d'ailleurs. En apparence, ça donne l'impression que la mort résout les problèmes puisque tu ne vas plus connaître les problèmes terrestres. Mais attention, la vie ne s'arrête pas à la mort physique. Il y a une vie qui continue et la Bible nous en parle. Dans le séjour des morts, il y a encore des souffrances plus grandes que sur terre lorsque nous ne sommes pas branchés à Dieu. Donc, au contraire, tout ceci doit nous apprendre à ne pas nous accrocher à la terre, à ne pas nous accrocher à nous-mêmes parce que c'est vain, mais à nous accrocher plutôt à Dieu. Oui.
Oui. Est-ce un signe de douleur caché lorsqu'un chrétien désire le ciel au point de vouloir mourir?
Pas forcément de douleur cachée. Certains sont clairs là-dessus. Même Paul est clair là-dessus. Il dit, mais la mort m'est un gain. Si je meurs, au moins je vais au paradis, je vais chez le Père. Mais bon, je voudrais quand même faire la volonté de Dieu, rester ici pour soutenir l'Église du Seigneur. Voilà. Il n'y a même pas caché, parce que Salomon est clair là-dessus. C'est un constat clair. Peut-être que nous n'avions pas ce constat-là, mais nous devrions tous avoir le même constat que Salomon. La vie est déprimante sans Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens qui se sont endormis en forme et qui se sont réveillés avec une maladie. C'est décourageant. Quand un accident arrive, tu te dis, mais si seulement aujourd'hui j'étais pas sorti de la maison, quoi. Mais tu ne peux pas faire marche arrière. Combien de fois quand j'étais petit, puisque j'escaladais les murs, je faisais beaucoup d'acrobaties, je me blessais souvent. Alors petit, 8 ans, 7 ans, de moi-même je me disais, ah si j'étais resté à la maison aujourd'hui, je ne me serais pas blessé ainsi. Voilà. Et tu peux pas faire marche arrière. C'est des réflexions naturelles. Au contraire, tout ça doit nous ramener à nous montrer ce que Salomon veut nous montrer. Tout est vanité sur terre. La vraie vie, c'est quand tu vis avec Dieu, selon Dieu et pour lui. Là, tu participes à sa vie. C'est là que tu es dans la vraie vie. Tu es dans l'espérance, tu es dans la force. Les malheurs que nous décrivons ne deviennent pour toi qu'une étape pour un avenir glorieux. Ça se transforme. Alors que sans Dieu, coupé de Dieu, le malheur que nous décrivons vient polluer le peu de bonheur que tu peux avoir par la nourriture, par l'amour des uns des autres, ben, tous ces malheurs-là viennent polluer ça. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, dans la perspective de Dieu, dans la vision divine, tous ces malheurs ne sont que les douleurs d'enfantement pour toi. Voilà. Nous continuons.
Verset 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent.
Encore une vanité, bien-aimé. La plupart des gens travaillent en comparaison avec d'autres. Et quand ils sont dans cet état-là, ils ne seront jamais satisfaits. Ils vont l'être pendant deux jours, pendant une semaine, quand ils seront plébiscités comme étant le plus fort, le meilleur ouvrier de la semaine. Mais la semaine qui suit, ils vont être jaloux de quelqu'un d'autre. Donc tout ça est vanité. Il y a beaucoup de jalousie. La jalousie enlève le bonheur. J'ai vu des gens jalouser des gens qui avaient moins que eux. Parce qu'ils ont eu... ils ont acheté quelque chose de spécial, ils ont quelque chose de que eux n'ont pas, mais globalement, eux, ils en ont plus, mais ils jalousent quand même celui qui a peu. La jalousie enlève le bonheur. Beaucoup de gens travaillent à fond pour dépasser et ça enlève le goût, ça enlève la joie. Nous continuons. C'est la poursuite du vent.
L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin à ses yeux et ne sont jamais ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise.
Oui, c'est encore là une vanité. Il y a des gens qui n'ont pas de proches, nous pouvons dire. Et ils travaillent comme des malades, ils ne font qu'amasser, ils n'ont personne à qui donner. Salomon dit, mais là encore, c'est la vanité. Cette personne se prive de la joie. Elle travaille à fond, elle n'utilise pas ce qu'elle produit. Elle n'a non plus personne à qui, comme enfant, comme frère, à qui donner. Et on se demande maintenant, pourquoi ils travaillent? S'il reste toujours sec, il n'utilise pas son argent. Et moi, j'irai même plus loin. Même pour ceux qui ont des parents, des enfants, tout ça, il y en a qui vivent très loin en deçà de ce qu'ils produisent. Par esprit d'avarice, esprit d'économie, logique culturelle de sécheresse, et l'on se demande, mais ils travaillent finalement pourquoi? Pour voir juste le chiffre à la banque, le nombre à la banque augmenter. Salomon dit, mais ça c'est vanité. Pourquoi travailler et vivre comme un pauvre? Pourquoi gagner beaucoup et vivre comme un pauvre finalement? Tu ne fais que enrichir les banques, faire plaisir à ton cerveau de voir des gros chiffres. C'est la vanité. L'avarice, c'est la vanité, puisque finalement, tu amasses, tu n'utilises pas. Mais finalement, la question c'est, mais pour qui donc est-ce que je travaille? Ni pour toi-même, ni pour personne. C'est vanité encore. Bien aimé, c'est là que ça nous ramène à ce que nous avions vu la dernière fois. Mais au moins, ce que Dieu me donne, je mange. C'est ça ma joie du moment, quoi. C'est le temps présent avec Dieu, ce que Dieu nous donne dans le temps présent. Au moins, c'est le cadeau de Dieu pour nous. Il te donne quelque chose, un bon salaire, utilise, vis. Ah non, il y en a qui amassent, sans fin. Pourquoi? C'est de l'argent qui dort, mais pourquoi? Dit Salomon, pourquoi est-ce que tu travailles finalement, si ce n'est pas pour utiliser? Et donc, quand on dit, ben, ils n'ont ni frère, ni... Il y en a qui en ont même, mais qui ne donnent ni à, aux gens, ni à eux-mêmes. Bon, c'est Salomon dit, c'est la souffrance, c'est la vanité. Et il dit, mieux vaut, au verset 6, une main pleine avec repos, que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Donc, il y a des gens qui amassent beaucoup par un travail acharné sans profiter de ce qu'ils produisent. Voilà, nous revenons un peu à ce qu'on venait de dire. Ils travaillent beaucoup, mais ils ne mangent pas. Ils ne se vêtissent pas. Et finalement, tout ça, ça sert à quoi ? Salomon dit, mais vaut mieux avoir peu, c'est-à-dire qu'une seule main, mais l'autre main qui utilise ce que la première main a produit. Mais toi, tu as les deux mains qui produisent, mais il n'y a pas de repos, il n'y a pas de joie, il n'y a pas... C'est vanité des vanités, finalement. Et il dit, on parle aussi, on revient un tout petit peu sur le paresseux, dont on parle beaucoup dans le livre de Proverbes. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Donc, les gens qui ne veulent pas travailler, ils finiront par manger leurs cheveux, quoi. Voilà, oui. Nous écoutons la question.
Donc, question Internet. Dieu nous dit qu'il manque d'ouvriers. Pourtant, dans les églises, nous remarquons que les gens sont jaloux les uns des autres. Si un frère fait une chose, un autre va essayer de l'éteindre. Je ne comprends pas pourquoi dans l'église de Christ, cela se passe ainsi. C'est comme si par jalousie, on laisse des gens se noyer au final.
Je n'ai pas très bien compris quand on dit on laisse les gens. Qui laisse ? Bon, donc, je dirais tout simplement, ce que nous décrivons, nous le voyons aussi à l'église, malheureusement. Maintenant, la réponse que je donnerai à la personne qui est intervenue, à cette personne, de montrer la différence en vivant sans jalousie, en donnant l'avantage aux autres. Voilà, c'est comme ça que nous changerons les choses nous-mêmes en vivant d'une autre manière que ce que nous dénonçons. Voilà. C'est comme ça que quand de plus en plus de gens prennent conscience de vivre les choses, ces choses vont changer au milieu de nous.
Une autre question. Quand on travaille, épargner n'est pas mauvais?
Épargner, pourquoi ? Sans but, ça ne sert à rien. Mais que les choses, parce qu'il faut faire qu'on fasse la différence. Épargner sans but et le fait que les choses, nous n'avons pas trouvé dans quoi dépenser et l'argent que nous avons est là. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, épargner sans but, ce n'est pas biblique. Ce qui nous est donné, c'est pour être utilisé. Mais ça ne veut pas dire que dès qu'on a quelque chose, on doit dépenser. Il y a des moments où les choses, l'argent peut s'amasser tout seul sans que nous on ait la volonté d'amasser. Ça s'amasse tout seul parce que nous n'avons pas vu dans quoi dépenser. Mais avoir l'idée d'épargner pour épargner, ce n'est pas biblique. Ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous vivions de cela. Voilà. Maintenant, quand nous n'avons pas pu tout dépenser, il y a des choses qui restent, mais ça ne vient pas de notre volonté d'amasser pour amasser. Mais quand on épargne, par exemple, pour acheter une maison, acheter une voiture, là, c'est difficile. Il y a un objectif, il y a un but. Mais sans but, garder pour garder par décision, ça n'a pas de... Voilà. Nous continuons.
9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement.
Ah, effectivement, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Là, le frère Salomon vient nous partager l'importance de la communauté, l'importance d'être avec d'autres dans le travail. C'est très, très important. Même si nous pensons être le meilleur, nous avons besoin toujours, comme on dit en français, d'un plus petit que soi. Donc même si c'est, tu es le plus fort, sache que tu as besoin aussi des moins forts. Parce que une seule personne ne peut pas tout résoudre. Ça voudrait dire que cette personne est Dieu. Seul Dieu peut tout résoudre seul. Mais nous, nous sommes appelés à vivre avec d'autres personnes. Et il n'y a pas que... Ce passage nous détaille la chose. C'est un passage, cet ensemble de versets qu'on a lu, c'est vraiment puissant. Parce que ça dit, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. C'est une réalité. Et toujours le verset 12, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Il y a des choses, bien-aimées, qui ne seront possibles que lorsque nous sommes à plusieurs. Les choses sont compliquées. Ce qui me fait mal, c'est que même les païens mettent des processus où on vous exige d'être à plusieurs pour faire quelque chose. Ils en ont même fait une doctrine. Ils disent qu'il y a des choses que l'un va remarquer, même le plus intelligent qui est à côté ne va pas remarquer. Et on s'enrichit comme ça par les apports de chacun. Que personne ne nous trompe, bien-aimés. La logique du groupe se trouve dès le départ dans la Bible. Vous savez où? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable. Ce n'est pas nous qui allons contredire ça. C'est vrai que naturellement, nous sommes égoïstes et naturellement, nous croyons nous suffire à travers l'héritage du péché venu d'Adam. Quel est ce péché? Je suis Dieu moi-même. Et comme nous avons tendance à nous croire Dieu, nous pensons que nous pouvons seuls résoudre les choses. Et Dieu nous dit non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu choisit Israël, c'est comme une famille qui choisit. Au début, il a commencé par Abraham seul, Isaac, et puis toute une famille qu'il appelle Israël. Quand le Seigneur vient, il choisit 12 apôtres et il fait en sorte qu'ils soient unis. Ensuite, avant de partir, il fait une prière mémorable qui se trouve dans quel chapitre? De quel livre? J'entends les réponses. La question, c'est quelle est la prière mémorable que fait le Seigneur? Le Seigneur n'a pas fait beaucoup de prières non plus. Voilà, dans Jean 17, il a fait une longue prière sur le fait que ses disciples soient ensemble. Une longue, c'est la plus longue prière que le Seigneur ait faite dans la Bible. Et il ne s'arrête pas à dire que les enfants de Dieu sont ensemble. Il dit même que c'est en relation avec sa communion avec le Père et le Saint-Esprit. De même que lui, il est un avec le Père, donc il est ensemble avec le Père. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la terre, ça vient de la communauté céleste. Créons l'homme à notre image. Ça vient de là. Mais c'est vrai que la communion terrestre, ce n'est pas toujours facile à cause de l'imperfection humaine. Mais c'est la volonté pure de Dieu. Nous ne pouvons pas changer, nous ne devons pas changer ce qui vient de Dieu à cause de l'imperfection humaine. Le mariage vient de Dieu. L'imperfection humaine peut le rendre difficile. Mais nous ne devons pas prôner le divorce à cause, pour autant. Nous devons rechercher davantage de perfection divine pour tenir. C'est cela, bien-aimé. Souvent, nous avons comparé la communion entre frères et sœurs au fait que l'on cuisine un plat en le mettant au feu dans une marmite. Physiquement, chimiquement, quand vous chauffez ces plats-là, qu'est-ce qui se passe? Les molécules, les liaisons entre les molécules, ça se casse et ça crée des chocs. Les molécules, les liaisons se cassent et les molécules se mélangent en se frappant. C'est ça la communion fraternelle. Il y a des chocs, mais l'aboutissement, c'est un plat qui est mangeable. Mais s'il n'y avait pas eu ces chocs-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de chaleur, le plat serait immangeable. C'est la chaleur qui va casser les liaisons, qui va créer des chocs, qui va produire un mélange mangeable. Donc la vraie communion fraternelle, c'est lorsque nous pouvons supporter les défauts des autres et produire quelque chose de beau au regard des autres qui sont à l'extérieur. C'est ce que nous retrouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il est écrit au chapitre 4, il est dit que les enfants de Dieu étaient une même âme. Ils étaient nombreux, hein, mais ils étaient une même âme, au point de prendre la nourriture ensemble, au point que certains vendaient leur maison pour aider les autres. Et à cause de ça, les gens de l'extérieur avaient une crainte des enfants de Dieu. Ils les respectaient à cause de ce lien-là. Et dans Jean 13, le Seigneur dit, les païens reconnaîtront que nous sommes de lui par notre unité, par l'amour entre nous. C'est cela, bien-aimé. Et c'est dit avec plusieurs exemples, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Satan aura du mal à vaincre les enfants de Dieu unis. Il ne pourra pas. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, c'est-à-dire que si tu as un adversaire plus fort que toi, si tu es avec ton frère, à deux, vous pouvez le vaincre. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Voilà, le soutien de l'autre est nécessaire dans beaucoup de mécanismes. Verset 10, verset 9, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc la quantité même augmente quand nous sommes nombreux. Nous voyons cette affaire-là dans Actes des Apôtres, chapitre 2 et 4. Il est dit qu'en mettant leurs biens en commun, il y avait plus de pauvres parmi les chrétiens. Donc la quantité va forcément augmenter, on va plus faire des choses. Verset 10, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. C'est ça la réalité. Bien, mais moi, je peux vous dire que même quand quelqu'un a le titre de pasteur, super bishop, tout ce que vous voulez, s'il vit sa vie seul, il tombera. Personne ne peut tenir tout seul face aux forces des ténèbres. Personne. J'ai déjà raconté ça une fois, il y a 20 ans, j'avais eu comme une sorte de flash ou de vision où les ténèbres du monde m'ont apparu telles qu'elles sont dans le spirituel. Vraiment très, très épaisses. Il faisait noir comme si ce noir-là, comme on dit les ténèbres épaisses, comme si tu peux toucher ce noir-là. Tellement il faisait noir, c'est comme si ça se solidifiait, ça se matérialisait. Et j'ai vu des chrétiens, mais leur lumière individuellement, n'arrivait pas à éclairer tout autour. Et finalement, quand ils se sont rassemblés, c'est là que ça a produit une certaine lumière. Mais tout seul, ça paraissait presque invisible, mais il y avait une sorte de lumière, mais ça paraissait même pas brillant, tellement les ténèbres étaient épaisses. Et c'est le Saint-Esprit qui a voulu me faire comprendre l'importance de la communion des enfants de Dieu, de l'unité des enfants de Dieu, du groupe. C'est très important, bien-aimé. Souvenons-nous de tout cela. Oui, question.
Et question Internet. Peut-on y voir également un passage qui parle du mariage? La corde à trois fils représenterait le mari, la femme et le Seigneur quand il est au centre du couple.
Si on veut, si on veut. Mais dans tous les cas, la communion dont nous parlons, si ça s'arrête entre frères et sœurs sans Dieu, ça ne tiendra pas. Il y a tout, il faut que c'est bien cette intervention, ça nous rappelle que dans tout ce que nous avons dit là, Dieu doit être au centre de tout ça. C'est, s'il n'y a pas Dieu, c'est juste... ça existe déjà dans le monde, des gens qui se mettent ensemble. Hein, mais si nous voulons que ça tienne, c'est vraiment que Dieu doit être au centre de tout
ça. Bon, il y a une autre question qui va à peu près dans le même sens. À la seule différence, la personne rajoute, mais en fait, ce n'est pas seulement lié au mariage, mais à la vie de tous les jours.
Oui, oui, dans tous les cas, voilà, il faut que Dieu soit au milieu. Donc nous avons parlé du groupe, tout ça, mais Dieu étant au milieu, nous réunissant tous. C'est la logique de 1 Jean 1,7. Si nous marchons tous dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous nous rendrons proches. Peut-être qu'on peut lire ça, 1 Jean 1,7.
Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Voilà, ce verset nous dit que si nous tous, nous nous rapprochons de la lumière divine, forcément nous allons nous rapprocher des uns des autres. Donc c'est une loi qui est même physique, quoi. Si plus tu te rapproches d'un point, moi je me rapproche du même point, nous nous rapprochons, forcément. Donc si nous tous nous prenons Dieu au sérieux, nous nous rapprochons de lui, l'amour que nous avons pour lui va rejaillir sur l'amour que nous avons, que nous devons avoir pour le frère aussi qui se rapproche de Dieu. Donc Dieu doit rester au centre de tout ça.
Oui, il y a une autre question. Il y a un bien-aimé qui aimerait bien vivre la communion fraternelle, mais dans le lieu où il se trouve, il ne trouve pas des frères et des sœurs en Christ. Comment faire?
Comment faire? Bon, commencer avec les moyens du bord. Nous, nous sommes là, nous pouvons à distance déjà avoir une certaine communion avec le bien-aimé, le temps que Dieu lui ouvre les portes pour des gens sur place. Voilà.
Dans la parabole du fils prodigue, quelle signification y a-t-il au sujet des biens que le fils réclame à son père?
La question c'est quelle signification? La signification c'est la rébellion que nous nous manifestons à Dieu quand nous disons par exemple la phrase c'est ma vie. Donc quand quelqu'un dit c'est ma vie, il est en train de réclamer ce qui n'est pas à lui. Personne ne s'est créé, personne ne s'est donné la vie. Donc quand quelqu'un dit c'est ma vie, quand quelqu'un dit les je, il est dans le même esprit que ce garçon-là qui a réclamé une richesse qui n'était pas à lui. Donc tout ce que nous disons être à nous, c'est une forme de rébellion vis-à-vis de Dieu, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, c'est lui qui produit le mouvement et l'être, nous ne sommes que des gestionnaires. Donc quand quelqu'un se comporte comme si ses biens étaient proprement à lui, il est dans cet esprit de ce garçon-là. Et nous voyons cela, dans Actes des Apôtres, justement. Il est dit, soit au chapitre 2, soit au chapitre 4, personne ne considérait ses biens comme étant à lui. Voilà. Vous voyez, je vous ai souvent dit que Dieu, quand il commence quelque chose, il commence la chose parfaitement. Pour comprendre l'Église parfaite, il faut lire l'Église du début, parce que c'est quand Dieu fait quelque chose, il le fait directement à la perfection. C'est le temps et les humains et le péché qui détériorent les choses. Et dans ce texte-là de Actes 2 et 4, il est dit que personne n'est considéré ses biens comme étant à lui. Donc ils avaient compris que finalement c'est Dieu qui nous a créés, qui nous a tout fait, qui a tout fait, qui nous a sauvés. Donc nous ne sommes que des gestionnaires. Voilà. Donc la signification du comportement de ce fils, c'est que quand à chaque fois qu'un être humain se comporte comme si l'intelligence était à lui, ses enfants c'était à lui, tout ça, entrer dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Nous continuons, verset 13.
Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y a point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent.
Voilà, il dit que il faut savoir écouter les conseils, il faut savoir écouter. Et un roi, même quand il est vieux et qu'il n'écoute pas, ben, il est préférable même qui soit remplacé par un jeune, quoi. Un jeune qui écoute et qui pourrait même sortir de prison, quoi. Il va gérer mieux que ce roi-là. Parce que c'est en écoutant que nous pouvons entendre aussi la voix de Dieu. Souvent, Dieu utilise les humains pour nous parler. Donc, quand nous prenons des décisions seuls, sans avoir écouté d'autres personnes, c'est souvent qu'on se trompe. C'est Dieu va toujours... Je vous donne ça, bien-aimé, comme règle. Si vous voulez être protégé dans les décisions que vous prenez, il faut que vous joigniez quelqu'un à cette décision-là. Je ne cherche pas à être cette personne-là. Je dis tout simplement que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Même le plus grand, quelqu'un comme Moïse, un des conseils les plus, très importants qu'il a reçus, ça venait de son beau-père, qui n'était même pas juif. Qui n'était même pas juif. Dieu va utiliser souvent les autres. Ne faisons rien seul. Ça, c'est la technique, c'est la stratégie du diable. Et beaucoup se mettent en retard à cause de ça. Quand nous nous comportons ainsi, nous nous excluons de Dieu nous-mêmes. C'est ce que nous sommes en train de lire. Ce roi-là, il est vieux, donc il est censé avoir de l'expérience. Mais on dit de lui que puisqu'il n'écoute pas, il est moins efficace qu'un jeune. Même qu'un jeune qui sort de prison. Voilà. Même un jeune qui est né pauvre, il est mieux que ce roi-là. Parce qu'il ne sait pas écouter. Et il dit que tous les vivants qui marchent au soleil vont entourer plutôt cet enfant-là. Les gens vont s'attacher plus au fils de ce roi-là qui va le remplacer plus tard. Ils vont s'attacher. Au fils, parce que le roi, il a perdu la raison, il n'écoute pas. Et je vous donne un conseil. Vous savez combien de personnes ont failli être escroquées par les histoires de une voiture moins chère sur Internet, ou bien on te dit tu as gagné 1 million, mais il faut que tu envoies ceci, cela. Il y a des gens, à chaque fois, ils ont. Et on te dit en plus, il faut surtout pas que tu dises ça aux gens. Mais il y a des gens qui ont été sauvés comme ça. Ils sont venus voir. Il y a même un qui a dit, mais pasteur, le problème de la salle est résolu, donc on va acheter la... Moi, je dis, mais ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je vais t'expliquer à ton bureau, mais devant l'ordinateur. Dès qu'il a dit devant l'ordinateur, j'ai compris que c'était une escroquerie. Donc quand on arrive là, oh, mais il y a une femme qui veut que j'hérite de sa richesse. Moi, je dis, mais c'est... Ah bon? Oui, je vais te montrer les photos. Là, le cancer... Donc je vois la photo d'une personne rasée. Moi, je dis, elle a le cancer, mais elle est où? Dans le sud de la France, vers Montpellier. Moi, je dis, mais non, dis-lui que nous, on veut qu'elle vive. On n'a pas l'argent, on verra après. Nous voulons qu'elle vive. Comme nous sommes aussi en France, nous pouvons nous déplacer pour prier pour qu'elle soit guérie. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un refuser d'être guéri? La dame a dit, non, elle n'a pas besoin de guérir. Mais attends, comment Tu es malade, nous, nous voulons prier pour que tu guérisses. En réalité, c'était une escroquerie. Et puis, de fil en aiguille, on allait demander le numéro de compte bancaire. Vous savez, l'un des éminents serviteurs de Dieu de la francophonie, il est déjà mort. Mais à l'époque, c'était l'un des éminents, celui qui a fait le livre « Lumière sur les témoins de Jéhovah »,« Lumière sur le branhamisme », Christian Pitt. C'était considéré comme l'un des plus sérieux dans le milieu francophone. Il s'est fait avoir comme ça. Ben, la technique, c'est ça, justement. Nous avons entendu parler de ta réputation d'homme sérieux. Et nous pensons que c'est toi qui vas gérer l'héritage que mon mari m'a laissé. Moi, je suis mourante. Je pense que c'est toi qui vas bien gérer ça parce que de tous les pasteurs, c'est toi dont on a entendu parler que c'est toi qui es sérieux. Mais il faut 9000 euros pour les démarches d'avocat, tout ça. Christian Pitt, au lieu d'en parler, il n'en a pas parlé. Et il s'est endetté même. Parce que ces gens-là, leur stratégie, c'est de dire, il faut dire à personne. Il s'est endetté. Vous savez que c'est venu faire une tâche dans sa réputation d'homme droit. Vous voyez, à la dernière minute, Satan te frappe un coup. Juste parce que nous n'obéissons pas à la règle, il ne faut jamais être seul. Il ne faut jamais bien aimer. Il faut toujours que quelqu'un d'autre soit au courant de ce que tu veux faire. Parce que nous sommes des humains, nous pouvons nous tromper. Il faut toujours. N'importe, surtout quand une décision engage ton avenir, engage la suite, il faut toujours partager ça avec quelqu'un d'autre. Entendre ce qu'elle va dire. Parce que dans tous les cas, si Dieu veut quelque chose, il confirmera par d'autres. Jamais Dieu ne va t'envoyer dans quelque chose sans confirmer par d'autres. C'est très important de suivre cette règle que Salomon est en train de nous adresser. Et nous clôturons avec le verset 17.
Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal.
Le sacrifice des insensés, c'est quoi? C'est de la prière vague, sans conscience. Donc, il est même dit qu'ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils viennent, il n'y a pas la conscience que Dieu est là, mais c'est plutôt une logique religieuse. C'est le sacrifice des insensés. Dieu veut une adoration consciente. Quand tu lui dis quelque chose, tu le dis consciemment. Il veut qu'on se branche vraiment à lui. Il ne veut pas juste qu'on fasse des rituels. Donc, quand nous entrons dans la maison de Dieu, bien-aimé, il faut être sérieux. Il faut savoir ce que tu veux. Ou bien, il vaut mieux ne pas venir. Mais si tu viens, tu dois venir pour répandre ton âme. Comme nous chantons les chants, « Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. » Tu viens lui dire, « Aïe, la journée a été dure, Seigneur. Je viens être renouvelé par toi. » Comme ce monsieur-là, le péager, il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne d'être là, mais je viens parce que j'ai besoin de ta miséricorde. » Mais le pharisien était venu là. « Moi, je jeûne deux fois par semaine. Je ne pêche pas. Je donne ma dîme. » Donc, sacrifice des insensés. Il est écrit, c'est le publicain qui a été justifié. Parce que lui, il avait soif de Dieu. Il avait soif de son aide. Il est venu recevoir de Dieu. Donc, il est écrit, quand tu viens, c'est pour écouter Dieu, pour recevoir Dieu. Approche-toi pour écouter. Pour écouter, pour recevoir, pour entrer dans la communion avec Dieu, t'expliquer, résoudre les choses, bref, se brancher à lui. Mais faire les choses comme si c'était un cours d'histoire, de géographie, non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ou faire les choses parce qu'il faut prier, non, c'est pas. On prie parce qu'on est sec. On a soif, on n'est pas bien sans Dieu. Donc on vient auprès de lui. Parce qu'on a des objectifs avec lui, on a du travail à faire avec lui. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, et c'est ça qui fera que nous produirons beaucoup de fruits. Oui.
Aux questions internet, par rapport au verset 17, parfois on peut être bien, on peut être on ne peut pas être. Oh bon, parfois on n'est pas bien, on est fatigué. Est-ce un sacrifice des insensés?
Non, c'est ça qu'il faut faire. Quand tu es fatigué, c'est là que tu as besoin de Dieu. Faut pas venir fort. Il faut venir pour recevoir. C'est écrit pour écouter. C'est-à-dire, c'est recevoir de Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Ce n'est que notre amour. C'est-à-dire, quand on dit que nous, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Donc, c'est dans le sens où lui n'a pas besoin de quelque chose pour vivre. Sa relation avec nous, c'est une relation d'amour, c'est tout. Mais nous, nous avons tant à recevoir de lui, tant. Et quand nous voulons jouer à l'homme fort, c'est une façon de dire, j'ai pas besoin de toi, je peux me débrouiller tout seul. C'est une erreur grave. Les gens se trompent, ils veulent venir quand ils sont en forme. Non. Chez qui on va retrouver de la force? C'est auprès de Dieu. Vous savez combien de gens n'ont-ils pas été sauvés par des gens faibles? Combien? Parce que quelqu'un dit une phrase dans l'innocence, dans la simplicité, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ça a produit chez l'autre, de l'autre côté. Non, 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 il faut, voilà, il faut venir écouter Dieu, recevoir de lui. Il faut être libre. C'est lui qui veut nous bénir. Voilà. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons être encore plus près de toi. Quand nous faisons le résumé d'aujourd'hui, le malheur qu'il y a sur la terre et les contradictions nous poussent vraiment à la dépression. La solution, Seigneur, c'est la vie qui vient de toi. Que nous soyons plus près de toi, Seigneur. Que nous mangeons de toi. C'est pourquoi tu as dit, je suis le pain de vie. C'est toi qui donnes le vrai sens à la vie, la vraie paix, la vraie solidité. Aide-nous, Seigneur, à être toujours plus près de toi.